Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce 19e épisode de Temps Additionnel. On est le 29 mai 2024, vous écoutez bien cette émission sur Radio Esprit Occitanie. Et aujourd'hui, on a beaucoup de boulot avec Alex. Adichas à toi.
Adichas Raphaël.
Alors au menu aujourd'hui, on commencera par le sacre du Stade Toulousain en Champions Cup et s'en suivra aussi la belle victoire des joueurs du Toulouse Olympique. On parlera aussi de foot avec la fin des barrages de Ligue 1 et aussi la fin des grands championnats européens avec les coupes nationales qui se sont terminées. On restera dans le foot en partant aussi pour le Mexique pour vous faire découvrir la nouvelle compétition, la Kings League. Puis on ira en sport automoto, on déposera nos valises d'abord en principauté pour le Grand Prix de Monaco qui a donné une grande surprise et un grand bonheur aux supporters de Ferrari. Il y a eu aussi de la moto, donc comme je l'ai dit, avec le Grand Prix de Catalogne. Retour en France aussi avec quand même le retour du mythique Roland Garros qui a commencé cette semaine en tennis. Il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de Français éliminés, on en parlera aussi. Et pour finir, comme toujours, on ira prendre des nouvelles du Phoenix. On commence l'émission en fanfare avec bien évidemment le sacre du Stade Toulousain en Coupe d'Europe face à notre bête noire, le Leinster. Victoire dans le dur, 31 à 22. Purée, qu'elle fut tendue cette finale hein, quand même. Du début à la fin, on a retenu notre respiration grâce à une cohésion d'équipe hors du commun et l'aura hein, qui englobe l'institution du Stade Toulousain, on le sait. Hein. Il y a toujours un truc qui entoure les grandes équipes comme le Real en Ligue des Champions. Là, c'est le Stade Toulousain. En Champions Cup, cette équipe est allée chercher sa 6e Coupe d'Europe, ce qui en fait le club le plus titré en Europe. Hein. On l'était déjà, mais si le Leicester gagnait, ils auraient eu 5 étoiles comme nous. Mais comme vous savez, le Stade Toulousain, c'est pas un club comme les autres. Et ce club nous l'a encore prouvé ce week-end. Hein. On a tout eu, une défense de fer, une efficacité redoutable sur les pénalités, grâce à King Horn, puis ensuite Thomas Ramos. Un mental d'acier pour rester dans le match après 2 essais refusés par la vidéo. Il faut quand même rester concentré après ce qu'on a subi. Et bien évidemment, les individualités extraordinaires comme Mathis Lebel qui vient libérer tout un peuple avec son essai en prolongation ou encore Antoine Dupont qui nous a livré une performance XXL toujours propre dans les duels et dans les relances. Comme le prouve son magnifique 50-22, effectué à une vitesse folle qui a surpris tout le stade. On l'a vu dans le public, ils étaient tous impressionnés. Hugo Mola, attendez que cette génération marque de son empreinte le Stade Toulousain. Je crois que c'est chose faite hein, avec un parcours comme celui-ci et une finale magistrale. Je pense que le contrat est rempli, hein, manque plus que la petite victoire en top 14 en juin. Et puis voilà, cette génération est magnifique, on a tout, de l'expérience, des jeunes cracks et aussi un staff de qualité avec beaucoup d'anciens joueurs du stade qui restent dans le staff pour entourer le groupe. Et c'est ça qui fait que cette équipe est aussi belle, c'est qu'il y a un vrai cadre autour de cette équipe, une vraie histoire et une vraie transmission des valeurs. Donc pour ce qui est de l'expérience supporter avec Alex, on était au Capitole évidemment, il faisait super beau, on a passé un super moment. Et en parlant à quelques supporters, il y en avait qui partageaient le même avis, hein, et qui cet avis c'était ce fut un des plus beaux matchs qu'ils aient assisté de leur vie.
Tu vois ce qui est beau Raphaël, c'est qu'on est champion d'Europe. Champion d'Europe, champion d'Europe, champion, champion, champion d'Europe. Ah, magnifique. Tu sais que pour moi, j'ai jamais vu de ma vie un match de rugby aussi suffocant et aussi serré que cette finale. C'était le choc des titans. En fait, tu vois, il n'y a qu'à voir comment les deux équipes ont eu du mal à se neutraliser. Tu vois, souvent, on critique les finales cadenassées, sans saveur, sans essai. Là, j'ai passé 100 minutes où ma vie en dépendait, hein, vraiment. Ce niveau du Stade Toulousain là, qu'on a vu là, en finale, c'était pas l'équipe qui voulait faire figuration, non. Là, cette équipe du Stade, elle voulait la gagner, elle voulait mettre un terme aux 3 années sans titre européen. C'est vrai que ça fait quand même 3 ans qu'on n'a pas gagné.
C'est long. Hein.
C'est très long, effectivement. Et je reconnais le talent de cette équipe du Stade cette année qui a démontré, mais alors, un énorme dévouement en défense, une solidarité et une maîtrise monstrueuse. Et dans tous les domaines du jeu. D'ailleurs, je disais à un moment que le Stade avait quelques lacunes en défense. Alors là, la défense toulousaine a été exceptionnelle. Elle a muselé James Lowe, toute l'équipe de Leinster en fait. Rien à dire, un énorme bravo. Et bien sûr, Dupont a prouvé plusieurs fois qu'il était un joueur exceptionnel. Mais quelle intelligence sur le jeu. Il a contribué en défense, en attaque. Il était partout ce mec. Il était partout. Et c'est ça qui est incroyable. Mais le moment le plus fou, c'est l'essai de Mathis Lebel qui a renversé Leinster. Et on a tenu tête aux Irlandais. Donc on a fait retenir le mérite jusqu'à la fin. C'est juste fou. Et aussi le moment où Tyrone Frawley a failli mettre le drop à la 79e minute, tout Toulouse s'était arrêté pendant un instant. Ça, tu te rappelles, Raphaël?
Ouais.
Ça fait quand même 4 finales perdues pour le Leinster. Hein. Ça doit faire mal dans la tête de nos amis irlandais. Hein. 4 finales perdues. De toute façon, cette finale, le Leinster n'a jamais eu main sur le ballon. Hein. Toujours courir derrière au score. Ça en dit beaucoup de l'incroyable maîtrise et de la grande discipline made in Sud-Ouest. Hein. Et franchement, quelle finale. Hein. Elle restera gravée dans ma mémoire. Merci aux deux équipes et merci messieurs pour ce spectacle et ce niveau de jeu.
Ah, c'est sûr, tu l'as redit, le drop vraiment, le temps, il était vraiment suspendu à ce moment-là. Donc, c'était le tournant du match. Je pense qu'à partir de ce drop raté, Toulouse était sur la voie royale pour le titre. Franchement, c'était prédestiné. C'était sûr, en fait. C'est le Stade toulousain. Ça fait 6 finales de suite qui ne perdent pas, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Donc, c'est vraiment une équipe incroyable. 6e titre, seul au monde, seul en Europe. C'est incroyable.
Et pourtant, moi, je reproche à certains médias de ne pas en avoir parlé. D'ailleurs, même, il y avait un débrief sur l'équipe. Il y avait, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais elle a dit les termes. Elle a dit que, en fait, tous les médias s'en fichaient du Stade Toulousain et que si c'était le PSG qui gagnait la Ligue des Champions, là, on aurait parlé pendant 2 mois, 3 mois. Et...
C'est ça. Bah après, voilà. C'est sûr que déjà, le rugby, on en parle un peu moins, mais l'exploit est assez banalisé vu que le Stade, c'est sa 6e Coupe d'Europe. Donc, c'est un peu plus banalisé, mais c'est sûr qu'on n'en parle pas assez. Quoi. Le match en lui-même et le parcours méritent d'être vu et revu et transmis à tout le monde. On passe désormais au rugby, mais quand même, le rugby à 13, et j'ai une chose à vous dire. Le Toulouse Olympique joue le titre cette année. Moi, je vous le dis, nos Toulousains s'imposent à la maison contre les 3e de cette Betfred Championship, la seconde division. Du rugby à 13 contre les Wilderness Vikings en leur infligeant un score 28-20. C'est la 4e victoire en 5 matchs pour les joueurs du TO 13. Je vous l'avoue, j'étais pas trop confiant au vu de cette rencontre. On sait que cette équipe a du mal face aux équipes du top 4, elle nous l'a prouvé en début de saison. Mais elle nous a aussi prouvé le contraire en nous montrant qu'elle pouvait faire partie des meilleurs de ce championnat. Reste plus qu'à enchaîner désormais dès samedi face à Halifax, avant-dernier de ce championnat, mais gare aux apparences. Leur dernier match, c'était une victoire écrasante contre Doncaster 34-8, qui était 6e du championnat au moment du match, donc attention pour les Toulousains.
Et franchement, c'était une très belle victoire du TO 13, face à une équipe bien classée, qu'on se le dise. Hein. C'était pas de la tarte, mais le Toulouse Olympique s'est illustré à Ernest Velon, porté par le splendide 3e ligne Anthony Marion, qui a d'ailleurs honoré son 200e match avec le TO. Donc, c'est 200 matchs, c'est quand même pas mal. Bon, d'abord, il inscrit l'essai de la 16e minute qui permet au TO de bien aborder la rencontre. Mais l'essai de Mathieu Jussomme permet à nos Toulousains de reprendre la tête au score, parce qu'il faut savoir qu'à un moment, on était mené. Mais là, grâce à lui, le score est porté à 18-14. Il intervient juste avant la mi-temps. Et en reprenant le score, justement, ils étaient dans de bonnes conditions psychologiques pour attaquer la seconde mi-temps. En fait, tout se joue au mental, s'il ne faut pas l'oublier. Wednesday Viking peut être très bien classé, on peut être moins bien classé, mais tout se joue au mental. Et la preuve, on a gagné. Mais comme quoi, cette victoire a permis, comme tu as dit, au Théo d'aligner une 3e victoire consécutive, la 5e depuis le début de saison aussi, ça a souligné. De quoi redonner le moral au groupe un peu affecté après une entame de championnat en dents de scie. Hein. Ils avaient mal commencé contre Benford. Et bien sûr, vu qu'on est en forme en ce moment, il faudra chercher la victoire en terre anglaise contre Halifax.
C'est ça, tu l'as dit, une performance en dents de scie au début de saison. On était même sorti de la zone de montée et de play-off. Donc là, ça fait plaisir, on est 5e, on n'a jamais été aussi haut pour l'instant. Plus qu'à confirmer face à Halifax qui peut se montrer très dangereux comme on l'a vu le week-end dernier. C'est l'heure de parler football maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé les barrages de Ligue 1. Donc on vous avait tenu au courant la semaine dernière, Rodez donc, a réussi à battre le Paris FC au pénalty, mais malheureusement... Cette victoire n'a servi à rien parce que le match d'après contre Saint-Etienne, ils se sont inclinés chez les Verts 2-0. Donc c'était un beau parcours quand même pour les Ruthénois qui n'étaient pas dans leur meilleure forme il y a quelques années. Et là, les voir déjà jouer la montée en Ligue 1, c'est beau. Donc prochaine étape donc pour les vainqueurs de Rodez, Saint-Etienne, c'est l'affrontement contre le FC Metz en match aller-retour. Le match aller, c'est le 30 mai. Le match retour, c'est le 2 juin. Donc en tant que supporter toulousain, avec Metz, c'est les copains quand même, on aimerait bien les voir rester en Ligue 1, mais c'est sûr que Saint-Etienne, c'est l'histoire, et une Ligue 1 sans Saint-Etienne, c'est pas forcément une Ligue 1. Quoi.
Ah oui, il n'y a qu'à voir le public qu'il y a au Chaudron, en même temps, Saint-Etienne est connu pour son public, il ne mérite pas d'être en Ligue 2, franchement.
Non, franchement, il ne mérite pas, donc ces deux équipes méritent soit d'aller, soit de rester en Ligue 1, donc on verra ça, jeudi 30 mai, c'est demain, et dimanche 2 juin, on verra ça.
Mais bon, quand même, en vrai, je préfère quand même le FC Metz, c'est les copains.
Oui, c'est les copains, copains. Bon, maintenant qu'on a parlé de France, on va faire un petit tour d'Europe du foot. Et d'abord, évidemment, la finale de l'Europa League qui s'est jouée la semaine dernière et qui a vu l'Atalanta couronnée pour la première fois de son histoire, qui a battu le Bayer Leverkusen 3-0. L'Atalanta qui met fin à une série de 51 matchs sans défaite du Bayer Leverkusen, toutes compétitions confondues. Donc ça, c'est incroyable. Ils perdent et en plus, ils ont bien perdu. 3-0, c'est une bonne défaite. C'est pas de 1 but ou quoi.
Ah, le pire, c'est que Lookman qui met un triplé quand même.
Incroyable.
Je crois que c'est du jamais vu, mais je crois, on va dire que là, sa valeur marchande, elle a monté, je pense, considérablement, parce que là, c'est contre le Bayer Leverkusen qui n'a pas perdu un match. Moi, je m'attendais, en vrai, au moment où l'Atalanta gagnait 1-0, 2-0, je pensais que le Bayer Leverkusen allait revenir. 3-0, c'est du jamais vu.
À la mi-temps, moi, je pensais qu'il allait avoir 2-2, mais non, même pas 3-0, donc une victoire nette des joueurs de l'Atalanta qui soulèvent donc leur premier titre européen, et le Bayer Leverkusen qui voit sa première défaite depuis longtemps. Donc c'est assez dommage pour eux. Bon, on va rester quand même en Allemagne, et on le sait, le Bayer a gagné sa finale de Coupe d'Allemagne contre le Kaiserslautern, situé en deuxième division allemande. Courte victoire 1-0, mais qui permet de garder leur invincibilité en Allemagne. 53 matchs, une seule défaite pour le Bayer Leverkusen cette saison, donc ils soulèvent tous les titres nationaux possibles, sauf bien évidemment l'Europa League. Donc c'est quand même un beau parcours de cette équipe allemande quand même. On s'envole maintenant quand même en Angleterre. Il y a la finale de la FA Cup qui s'est jouée la semaine dernière. À ma grande surprise, à la grande surprise de tout le monde, c'est Manchester United qui s'est imposé face à Manchester City 2-1. Moi, tout le monde voyait Manchester City gagner. Ils étaient en pleine forme, ils venaient de gagner le championnat. Et Manchester United qui n'était même pas qualifié pour l'Europe, ils étaient 8e de première ligue, ils n'étaient même pas qualifiés, c'était une des pires saisons de leur histoire. Et bien, on réussit quand même à décrocher une place pour l'Europa League en gagnant cette FA Cup. Donc, une saison assez ratée quand même pour les joueurs d'Erik Ten Hag qui soulèvent un trophée quand même depuis pas mal d'années. Je crois que le dernier trophée c'était l'Europa League en 2016 à l'époque de Pogba, de Mourinho. Donc, ça date un peu, ça fait plaisir pour les supporters mancuniens. Plus qu'à confirmer en Europa League, il faudra un bon mercato parce que l'équipe est assez faible pour aller taper les grosses équipes d'Europa League, je pense. Et pour finir, on fait un tour au Portugal parce qu'il y a la finale de Taça de Portugal qui s'est terminée par le score de 2-1 pour Porto contre le Sporting. Donc Porto directement qualifié en Europa League. Troisième de ce championnat, donc le Sporting qui a perdu. Bon, c'est pas grave, ils sont quand même qualifiés en Champions League. Ça aurait fait un trophée de plus vu qu'ils sont déjà champions du Portugal, ils auraient pu encore gagner cette coupe. C'est dommage pour eux, mais bon, ça fait un trophée chacun pour le Porto et le Sporting. Donc on arrive à la fin quand même de cette épopée européenne pour tous les clubs. On va passer aux vacances, les JO, il y aura tout ça. Donc le foot, ça va commencer un peu à se terminer ces prochaines émissions. Vous l'entendez, la musique de foot de rue, mais pourquoi on met cette musique? C'est le nom de l'équipe de France qui nous représentera à la Kings World Cup et qui nous représente en ce moment même au Mexique. Alors qu'est-ce que c'est la Kings World Cup? C'est une compétition organisée par Gérard Piqué, ancien joueur de la génération dorée du Barça, qui réunit les streamers du monde entier et d'anciennes stars du foot pour créer un énorme événement de football du 26 mai au 8 juin. Donc je vous parlais un peu des règles quand même, parce que donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est 32 équipes et 18 nations représentées dans un tournoi de foot à 7, avec des règles spéciales pouvant amener à des moments spectaculaires. Les mi-temps, c'est 2 fois 20 minutes, donc c'est beaucoup plus intense sur un terrain plus petit, donc tout le monde fait des efforts. Les cartons jaunes, par exemple, c'est 2 minutes dehors, donc 2 minutes à 6 contre 7, c'est chaud. Pour ce qui est de l'engagement, c'est le ballon qui tombe d'une cage au centre du terrain et les joueurs doivent courir pour récupérer la balle, donc c'est assez intense comme des buts de match. Les buts comptent double à partir de la 38e minute et les équipes auront le droit à une carte secrète utilisable en seconde période seulement et qui donneront donc des avantages durant la seconde période. On a par exemple le but qui compte double pendant 4 minutes, on a un joueur adverse qui peut être suspendu, on a un joueur que s'il marque, son but peut compter double. Donc il y a des cartes assez intéressantes et ce qui donne un peu de piment. Donc maintenant que vous connaissez les règles, vous allez pouvoir soutenir notre équipe de France puisqu'elle est bien, bel et bien représentée dans ce tournoi international de foot à 7 avec à sa tête le streamer Amine Mathieu, président de cette équipe de France. Pour ce qui est des joueurs sélectionnés, la règle était simple. Aucun joueur obtenant un contrat professionnel ne devait être présent dans la liste. Les sélections organisées donc, permettaient donc à tous les jeunes de France d'avoir l'espoir de participer à cette Kings World Cup au Mexique. 10 joueurs ont été sélectionnés, 2 gardiens, 3 défenseurs et 3 attaquants, 3 milieux aussi. Et la règle, en plus, était la possibilité pour les sélectionneurs d'ajouter 3 anciens joueurs pro pour ramener de l'expérience et un cadre au groupe. La France s'est donc attachée les services de Samir Nasri, international français passé par l'OM, Arsenal et Manchester City, où il y a remporté de nombreux titres, notamment la Première Ligue qu'il a remporté 2 fois avec les Citizens. Et Jérémy Ménez fera aussi de la partie, ce nom dit peut-être quelque chose aux supporters parisiens, puisqu'il est passé par le club de la capitale, mais pas que. Il est aussi passé par la Roma de Totti, la AC Milan, Et il a effectué plus d'une vingtaine de matchs avec l'équipe de France.
Ah, franchement, Jérémy Ménez, ça sent le foot. Qu'en évoque son nom vraiment, parce qu'il a arrêté récemment sa carrière en Italie avec le champion de Serie B, hein, le SC Bari. Et par rapport à Samir Nasri, bah, c'était cool de le voir jouer en bonne forme physique, sachant qu'il avait fait l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux quand il avait joué en surpoids lors d'un match de gala avec l'OM il y a 2 ans. Il y avait Drogba qui était là en plus. Bon, bah, malheureusement, il s'est blessé contre le FC Pio avant la séance des tirs au but, parce que c'est vrai que là, le foot de rue a joué contre le FC Pio au départ. Il menait au départ 5-0, puis après on revient 5-5, on gagne les tirs au but, c'était une remontada de fou. Mais voilà, comme j'ai dit, il s'est blessé avant la séance des tirs au but, donc on verra s'il joue ce soir à 23h. Ben justement. Ah oui, et ben, à propos du troisième joueur pro, il y a une info complètement inattendue, hein, mais l'ancien champion du monde 2018, le défenseur Adil Rami, devait rejoindre l'équipe d'Amine en tant que troisième star manquante. Sauf que malheureusement, il est arrivé au moment de la deadline des transferts et ça a causé pas mal de problèmes au niveau de l'organisation. Donc malheureusement, Foot de Rue jouera sans sa troisième star. Bref, l'équipe de France Foot de Rue affrontera au second tour les Mexicains de Peluche et Caligari. Ce match est prévu ce soir à 23h heure de Paris. Il sera 14h au Mexique et tout ça est à suivre sur la chaîne Twitch d'Amine à 23h, je le rappelle.
Exactement, et si on gagne ce deuxième match, on est directement qualifié en 8e de finale, donc... Il faut être derrière cette équipe de France qui ont gagné leur premier match. Il ne faut pas tomber dans ces barrages et aller directement en 8e de finale. Donc rendez-vous du coup ce soir à 22h sur la chaîne d'Amine. Enfin, il predestinato, Charles Leclerc gagne sur ses terres, Charles Leclerc gagne à Monaco après maintes et maintes tentatives de victoire en principauté où à chaque fois un problème venait lui mettre des bâtons dans les roues, comme les problèmes mécaniques ou encore une stratégie plus que douteuse de Ferrari. On se souvient le scandale du Grand Prix de Monaco en 2022 où Charles menait tranquillement Grand Prix et où les stratèges se sont dit tiens, si on allait gâcher la course de notre pilote numéro 1, ce serait quand même rigolo. Enfin, ça c'est du passé, hein. Charles a enfin fini avec cette malédiction du Grand Prix à domicile. Il s'impose enfin chez lui dans un Grand Prix de Monaco toujours monotone, hein, comme à son habitude. Aucun dépassement, aucun changement de météo, on sait que ce Grand Prix se joue beaucoup aux qualifications. Donc celui qui a la pole position a de grandes chances de remporter le Grand Prix. Heureusement qu'il y a eu des accidents dans le premier tour pour le divertissement avec l'accrochage spectaculaire entre Pérez et Hülkenberg dans le premier tour, où on a vu la voiture du jeu mexicain dans un état lamentable. Heureusement, aucun blessé, mais course terminée pour les deux pilotes. Accrochage qui remet quand même en doute, encore une fois, la place de Pérez au sein de l'écurie Red Bull. Son contrat se finit bientôt et je doute que son baquet lui soit réservé pour la saison prochaine parce que il est pas très bon, il rapporte pas beaucoup de points à Red Bull, surtout que au niveau du championnat, on le verra tout à l'heure, Ferrari se rapproche très dangereusement de Red Bull. Et tant qu'on parle d'accrochage, on peut aussi revenir sur celui effectué entre les deux Alpines, entre Pierre Gasly et Esteban Ocon. Visiblement, rien ne va plus chez l'écurie 100% française, qui ne voit encore une fois plus le jour depuis le début de la saison. Hein.
Ouais, toujours Alpine, c'est fou. Hein. On dirait que l'écurie veut rester poissard jusqu'au bout. Sans parler de l'entretien du directeur qui avait dit justement « on va trancher au vif » au moment où il y a eu l'accrochage avec Gasly et Ocon. Comme quoi, rien ne va plus, même en interne, hein, c'est fou.
Il faut se réveiller, là.
Et par rapport à l'accident, justement, les deux As ont été impliqués, donc ça fait 3 pilotes. Hein. C'était plus de la F1, mais du bowling. Hein. Y a qu'à voir comment c'était l'accident, c'était vraiment du bowling, hein, pour le coup. Mais bon, mis à part ça, j'étais tellement fier quand j'ai vu Charles gagner chez lui, et visiblement, j'étais pas le seul. Il y avait le prince Albert II de Monaco en personne qui avait les larmes de joie, et au moment de la remise des trophées, c'était incroyable, l'émotion qu'il y avait. Et par rapport à ce qu'il y a eu au premier tour, c'est Monaco, hein. Fallait s'y attendre que ce soit le foutoir. Hein. C'est un circuit urbain avec beaucoup de virages serrés. C'est vrai que l'accident de Pérez était spectaculaire, surtout quand tu vois l'état de sa monoplace. Hein. Et en fait, je me dis que s'il n'y avait pas de halo, ça aurait pu être Pérez qui finissait dans le même état que la voiture. Ouais. Tu vois. Mais bon, après, pour gagner le Grand Prix de Monaco, maintenant, c'est connu. Hein. Faut être en pole position pendant les qualifs. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Il predestinato, hein. Il était en pole position, il a gagné chez lui pour Ferrari. J'ai presque cru entendre les cloches de Maranello sonner depuis la principauté, parce que c'est vrai, une tradition. Les cloches de Maranello sonnent quand il y a une victoire de Ferrari. Et déjà, ça faisait au moins 45 ans qu'un pilote de chez Ferrari n'avait pas fini en pole position à Monaco. Pas même Schumacher. Hein. Et plus historique qu'il soit, Charles Leclerc gagne pour la première fois de sa carrière dans son pays.
C'est incroyable. Enfin, après maintes et maintes malédictions, on va faire un petit point du coup sur le classement de ce Grand Prix de Monaco. Donc, premier évidemment Charles Leclerc, second Oscar Piastri, McLaren qui revient bien en ce milieu de saison pour la course à la troisième place constructeur, et Carlos Sainz ferme le podium, donc deux Ferrari sur le podium, c'est quand même pas mal. Lando Norris 4e, George Russell 5e avec sa Mercedes et Max Verstappen seulement 6e. Et qu'est-ce que ça fait au classement du coup? Ça fait que Charles Leclerc n'est plus qu'à 30 points de Max Verstappen. On pensait au début de saison que Verstappen allait encore s'envoler comme la saison dernière, mais c'est pas le cas, puisque bah, il termine 6e, Charles Leclerc termine 1er, donc il y a 20 points de prix d'écart. Donc les gens commencent à y croire, hein, sachant que Lando Norris est pas loin non plus derrière, on peut avoir une belle bataille à 3 en fin de saison. Quatrième de championnat pilote, c'est Carlos Sainz, c'est Sergio Pérez, avec techniquement la meilleure voiture du plateau, et seulement 5e. C'est assez inquiétant donc pour Sergio Pérez, on l'a dit, qu'il va peut-être voir son baquet détruit à la fin de la saison. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Alex, mais...
Ouais, c'est dur, hein. C'est vraiment dur pour Pérez. En plus, cet accident vient de confirmer justement qu'il va pas rester longtemps avec l'écurie autrichienne, malheureusement. Mais je tenais aussi à me pencher sur le classement par rapport à McLaren. T'as vu cette saison ? Moi, je pense que McLaren, c'est la surprise cette saison.
Ah ouais.
Ah ouais, déjà, Lando Norris, qui, j'ai l'impression que je me répète à chaque fois, mais qui galérait dans les Grands Prix d'avant et qui, là, depuis 3, même 4 Grands Prix maintenant, est au top. Sans parler aussi de Piastri, qui était super bien classé. Il a fini 2e quand même dans le Grand Prix de Monaco. Bon, il n'y a pas eu de dépassement, mais juste qu'il a bien réussi les qualifs. Et ouais, bah malheureusement, comme j'ai dit, pour Pérez, 5e, c'est pas ouf. Mais le pire, ça reste quand même Alpine. Alors là, Alpine, Ocon 16e, 18e, Gasly, franchement, ça fait pas trop honneur à la France, hein, de voir ça.
C'est...
Surtout en plus, Alpine, qui est encore un sujet de moquerie chez la plupart des puristes en Formule 1. Et... C'est
elle
triste.
Est loin, elle est loin à l'époque où Alpine jouait la 3e place du championnat et se battait avec Red Bull. Donc bon, on souhaite quand même bonne chance à Alpine et ouais, on souhaite bonne chance peut-être à Charles Leclerc pour essayer d'aller titiller Max Verstappen en cette fin de championnat, même Lando Norris. Et je voulais revenir juste vite fait sur Oscar Piastri, rookie et 6e de ce championnat qui fait un parcours incroyable avec McLaren qui revient fort. Donc la fin de ce championnat va être de plus en plus intéressante.
Franchement, c'est vraiment très intéressant, mais moi surtout, j'ai des espoirs pour Ferrari qui est quand même 2e, pas loin de Red Bull. Il faut gagner, il faut chercher les victoires. J'en ai marre de la dynastie Verstappen, là, faut que ça s'arrête.
Ça y est, c'est bon, un peu de changement. On reste dans le sport mécanique, on va parler de la MotoGP qui s'est déroulée ce week-end, qui s'est passée en Catalogne, donc qui a vu couronner Francesco Bagnaia, encore une fois devant Juan Martin et devant Marc Marquez, donc c'est Bagnaia toujours donc. Second du championnat qui passe juste devant Marc Marquez, Juan Martin qui garde sa première place au classement des pilotes. Qu'est-ce que t'as à dire toi, Alexis ?
Bon, déjà t'inquiète, hein, je corrige pas, juste en fait c'est Jorge Martin, mais il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, pour moi, Bagnaia il a été exceptionnel, hein, et dire que pendant les qualifs, il était assuré de finir en pole position, mais il a fait une chute au bon moment des derniers tours, donc c'est cruel, mais qu'importe, hein, il s'est vengé et est venu chercher le trophée comme un grand. Et forcément, je suis obligé de parler de Jorge Martin, Marc Marquez, hein, parce que tu as abordé avant, mais c'est le trio infernal cette saison. Ça promet pour l'équipe Ducati qui monopolise donc ce podium. Hein. T'as vu en même temps toutes les Ducati qui sont là. Mmh. Et je tenais aussi à souligner la performance de Quartararo qui a fini à la 9e position alors que pendant les qualifs, il était au moins à la 17e place. Pour l'instant, c'est le seul Français dans cette compétition qui a eu le plus de points. Malheureusement, Juan Zarco, et malchanceux cette saison parce qu'il a un peu comme ce qu'a fait Alpine en F1, c'est-à-dire il est mal classé, quoi. Il a pas trop de points. En tout cas, c'était un Grand Prix intéressant avec plein de surprises et de beaux duels. Le circuit de Barcelone, c'était vraiment pas mal. Et c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous le 31 mai pour un Grand Prix d'enfer puisque ça va se dérouler au circuit mythique de Mugello en Italie.
Il y a eu quelque chose aussi qui a commencé cette semaine, c'est le mythique tournoi de Roland-Garros, le tennis qui revient donc en force. On en avait un peu parlé aussi avec les tournois en Australie, mais maintenant c'est Roland-Garros, c'est à Paris, c'est en France, donc on est obligé d'en parler. Nous, avec Alex, on a retenu deux duels, c'était le duel Nadal contre Zverev. Nadal éliminé au premier tour, ça n'était pas arrivé depuis longtemps, même à sa première participation en 2005, il avait gagné le tournoi. Donc il encaisse seulement sa 3e défaite en 17 participations à Roland-Garros. Donc il signe sûrement son dernier Roland-Garros, hein, lui qui a marqué une génération et qui restera le roi incontesté de la terre battue. C'est dommage, mais je pense qu'il faut... Tout a une fin pour les grands, donc Rafael Nadal vaincu au premier tour, bon, face à Zverev quand même, c'est le premier mondial, mais ça reste quand même Nadal sur terre battue, ça reste le roi. Et le second duel, c'était donc Djokovic contre Pierre Hugerbert. Donc, Djokovic, lui, a fait mieux que son confrère en s'imposant en 3-7 face au Français Pierre Hugerbert. On le sait, les Français, c'est une hécatombe, hein, encore une fois, pléthore de Français éliminés au premier tour. Dans les survivants de ce premier tour, on y retrouve les mascottes, les vieux briscards du tennis français comme Gaël Monfils ou encore Richard Gasquet. un mot du Phoenix, cette fois-ci, qui s'est imposé à domicile face à Chambéry ce vendredi dernier. Donc c'est magnifique. Toulouse conserve sa quatrième place. Troisième victoire d'affilée pour les Toulousains. Franchement, je pense qu'on peut... Ouais, la quatrième place est assurée au vu du classement. D'ailleurs, classement, bah, Dijon relégué officiellement en D2, et le duel entre Créteil et Ivry et Saran pour la lutte pour le maintien, elle s'annonce assez passionnante parce que les trois se tiennent en un seul point. Donc il va falloir suivre ça, et Toulouse, je pense qu'il a fait le creux face à Limoges et qui est plus qu'à 7 points de Montpellier. Mais Montpellier, Nantes et PSG, c'est les intouchables, on le sait. On est les meilleurs des autres pour Toulouse, c'est nous, hein, franchement c'est nous. Donc on souhaite bonne chance à nos joueurs du Phoenix toujours, qui ont battu le Chambéry d'un point, mais une victoire est une victoire.
C'est vrai qu'on s'est fait peur, mais ça reste quand même une victoire. En plus là on joue plus rien, je veux dire là on est qualifié pour l'Europe, c'est bon, quatrième place assurée. Contre Montpellier, parce qu'on va affronter Montpellier après, ça va être compliqué de chercher la victoire. En plus, si on perd, ça sert à rien, parce que là, Limoges ne nous rattrapera pas, même Nîmes. Tu as vu le nombre de points qui sépare avec Nîmes, qui est sixième, donc... En fait, ce qui est très intéressant à suivre, bah, c'est le duel, bah, comme tu as dit, entre Créteil, Ivry et Saran, bah, qui luttent pour le maintien. Et en vrai, je me dis que Saran, il mérite quand même de rester parce qu'ils bon, nous ont quand même battus. Donc le fait qu'une équipe comme Saran, qui est dernier, qui arrive à battre le Phoenix, qui va être européen la saison prochaine, bah, c'est vraiment pas mal. Ils ont des, bah, sur le plan individuel, ils ont des très bons joueurs. Et on verra comment ça va se passer.
Ouais, qu'ils ont fait preuve d'une grande combativité. Et, tu l'as dit, il ne reste plus qu'une journée, du coup.
Ouais. C'est ça, on va affronter Montpellier.
Donc Montpellier... Pour la belle histoire, on pourrait aller taper Montpellier, le duel d'Occitanie, 3e contre 4e. Bon, Montpellier sont déjà assurés de terminer 3e, on est déjà assurés de terminer 4e. Mais bon, finir la saison en beauté, pas comme l'a fait le TFC par exemple, ce serait quand même pas mal. Mais,
ouais, hein, quoi, TFC, voilà,
on souhaite bonne chance le week-end prochain, nos joueurs du Phoenix, pour aller taper Montpellier.
Ouais, on souhaite bonne chance au Phoenix, bien sûr.
Bon, on va vous annoncer une petite nouveauté sur Temps Additionnel. On sera présent avec Alex pour le plus gros événement de MMA jamais organisé sur Toulouse. On sera à l'Hexagone MMA le 7 juin pour la conférence de presse et le 8 juin pour le main event. Ce soir du 8 juin sera un soir de titre pour Mikael Ajarouj qui jouera sa ceinture de champion du monde. On aura aussi des petits nouveaux qui débuteront comme Owen Jason qui s'illustre pour la première fois en pro au Palais des Sports de Toulouse qu'on pense, donc rendez-vous le 7 et 8 juin pour suivre au plus près cet événement. Suivez attentivement quand même les stories de Radio Esprit Occitanie, on essaiera de vous montrer les coulisses de l'événement, on essaiera un peu de vous vloguer comment ça se passe, un peu les conférences de presse et les événements vus du côté presse.
Voilà, et je tenais aussi à dire qu'on ne va pas diffuser en intégralité les combats parce que c'est interdit.
Évidemment.
Mais on va quand même profiter de l'événement, ça va être exceptionnel.
En mode inside, on va vous faire un peu découvrir les coulisses, je trouve que ça peut être intéressant, donc soyez attentifs sur les stories Instagram de Radio Esprit Occitanie. Bon, avant de se quitter, on va faire un petit point sur les événements à venir. Qu'est-ce qu'on va parler ? De quoi on va parler la semaine prochaine ? La semaine prochaine, on parlera du Stade Toulousain qui accueillera La Rochelle en top 14, donc le Stade Toulousain qui devra confirmer après son sacre européen. J'espère qu'ils n'ont pas trop bu les joueurs du Stade, j'espère qu'ils ne vont pas être trop bleus pour le match face à La Rochelle, parce que quand même c'est un gros client, même s'ils sont que 5e du top 14 et nous on est premier. Il faudra aller les taper, La Rochelle, on le sait, c'est un peu nos ennemis. Donc Alexandre, je crois que tu y seras, c'est ça ?
C'est ça, ouais, je serai à Nesvallon pour cet événement, mais un choc encore. On a eu Stade Toulousain-Leinster, là, on a Stade Toulousain-La Rochelle. J'espère qu'il y aura l'équipe titulaire. J'espère que... Hein ? Comment ?
Il va falloir enchaîner, là.
Ah, il va falloir enchaîner, oui.
Parce que... Non, l'équipe titulaire, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que comme Toulouse a son habitude, ils aiment bien mettre l'équipe titulaire en Europe et mettre les petits jeunes qui passent leur BTS en top 14. Donc on verra bien, on verra bien. On reste aussi sur le rugby, on en a parlé, Halifax qui accueillera donc notre Toulouse Olympique, le rugby à 13. Toulouse qui se devra d'empocher une deuxième victoire d'affilée face à Halifax, donc avant-dernier, mais qui sont quand même sur une bonne série, qui ont battu leur dernier match, une victoire, qui ont battu les 6e de ce championnat. On aura aussi, on ira faire un tour du côté du foot avec la finale de la Conference League Olympiakos contre la Fiorentina, donc la Fiorentina a l'occasion de ramener en Italie encore un deuxième sacre européen. Olympiakos, équipe historique qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en Europe, ça fait du bien aussi de les voir, donc affaire à suivre. On aura aussi les finales pour les barrages d'accession à la Ligue 1, Metz face à Saint-Etienne le 30 mai et le 2 juin, donc on vous tiendra au courant évidemment parce que c'est assez important. Bah, c'est deux équipes importantes de ce championnat qui se jouent, Donc on verra aussi, pour finir, toujours un mot du Phoenix qui se déplacera, comme on l'a dit, à Montpellier pour terminer peut-être cette saison en beauté face au troisième de ce championnat. Le troisième et le quatrième n'ont plus rien à jouer, donc c'est juste pour finir en beauté et pour commencer la saison prochaine avec du positif. Et rendez-vous aussi ce soir pour la Kings World Club France-Mexique sur la chaîne d'Amine Mathieu à 22h. L'émission touche déjà à sa fin, donc on a eu beaucoup de choses à dire quand même aujourd'hui avec Alex. Je trouve qu'il y a eu pas mal de contenu, on s'est bien régalé, il y a eu des nouvelles choses. Toujours un plaisir hein, d'écrire ces émissions, de les enregistrer. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Alex?
Alors, je me suis régalé, hein. La sixième étoile pour le Stade Toulousain. Incroyable. En fait, là, j'ai l'impression qu'on n'a eu aucune défaite, hein. À part juste Roland-Garros, bon, ça c'est connu, nos Français qui sont éliminés. Oui. Mais franchement, je me suis régalé, c'était incroyable.
Ah, du côté de Toulouse, ça va très bien. Bah, après, on parle pas, il n'y a plus le TEF, donc c'est sûr qu'ils sont pas là pour gâcher la fête, c'est sûr. Donc bon, c'est toujours régalé. Merci à toute l'équipe encore une fois de nous accueillir. Et bah, avec Alexandre, on vous dit
à la semaine prochaine.